Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Christian Dubois, directeur exécutif du Centre Bienvenue. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène de son sujet « Comment être zen ». Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique « Parents sous pression ». On commence d'abord en chanson avec Rick Pagano. La chanson s'intitule « Voyage, bienvenue à Folie douce ».
Écoutez Folie douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
J'accueille maintenant mon invité, M. Christian Dubois. Bonjour, M. Dubois.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission. Vous Merci. Êtes directeur exécutif du Centre Bienvenue. On va apprendre à connaître cette ressource qui est située dans dans l'ouest de l'île de Montréal. D'abord, parlez-nous un peu de vous. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes directeur et que vous œuvrez à cette ressource?
Alors, écoutez, j'ai été impliqué pendant 8 ans comme bénévole. J'ai été membre du conseil d'administration, j'ai été trésorier et j'ai fini président. Et en 2018, on a dû laisser partir le directeur qui était là. Et on m'a dit, est-ce que ça tente d'essayer? Et ça fait 8 ans que j'essaye.
Ah oui, puis finalement, l'essai est conclu.
L'essai concluant. Écoutez, donc, ça fait 15 ans que je suis impliqué avec Centre Bienvenue.
OK. Et la santé mentale, bon, c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, c'est quand même, c'est prenant. Il y a des défis. Ça peut être gratifiant, tu sais, on aide les gens, tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à la santé mentale et que vous voulez continuer l'œuvre, en fait?
Bon, tout d'abord parce que, comme je vous dis, j'ai été invité comme bénévole et j'ai pris un côté que j'ai trouvé intéressant. Un peu le côté de redonner à la société. Parce que je pense qu'effectivement, je ne vous cache pas qu'il y a des journées difficiles. On a une année difficile. C'est un domaine qui, malheureusement, est en croissance. La pandémie a été difficile. Donc, j'ai toujours aimé être dans le monde. Je vous disais, j'étais en politique à un moment donné.
Oui, oui.
Donc, c'est sûr que c'était une façon vraiment de participer à la société. Je crois fermement que si on participe pas, on ne doit pas se plaindre. Et, comme je dis, la santé mentale, vraiment, a besoin de gens. Et l'organisme date de 1978.
Oui. Et parlons donc justement de Centre Bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir ce que c'est Centre
Alors,
Bienvenue?
Alors, Centre Bienvenue, c'est... Premièrement, il y a deux entités dans la même place. On a un centre de jour.
OK.
Et on a une résidence dans le même édifice.
De l'hébergement.
L'hébergement de 21 studios.
OK.
Pour des gens avec des problématiques de santé mentale.
Oui.
Qui ne viennent que par référence de l'hôpital psychiatrique Douglas ou par l'hôpital Lakeshore.
Okay.
Donc, l'entrée est réservée à ce genre de personnes-là. Et donc, le centre de jour, activité quotidienne, du lundi au vendredi. On a également une classe en collaboration avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois, où on donne des cours du lundi au vendredi, qui s'appelle Transit vers l'emploi. Donc, c'est un programme qui permet aux gens soit de retourner en emploi, soit de retourner aux études. Et c'est un programme en continu. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Les gens peuvent rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, ça, c'est à peu près l'ensemble des activités du centre de jour. La résidence, elle, c'est un concept assez intéressant puisqu'on appelle ça une ressource intermédiaire. C'est-à-dire que les gens signent une entente de 6 ans qui n'est pas un bail. Et l'entente les oblige à participer à leur établissement, rencontre avec les intervenants, participer aux activités, etc. Et on appelle ça nos champions parce qu'effectivement, ils en sortent. On en a cette année pas mal qui sont partis, qui finissent dans la société, dans un appartement seul. Donc, la mission, c'est ça. La mission, c'est le rétablissement. Et pour le centre de jour, ben, c'est que les gens aient l'occasion de communiquer, de se retrouver parmi eux. C'est très complexe, la santé mentale.
Et la résidence, ça leur donne assez de temps. Comme vous dites, c'est pas à court terme, c'est quand même un certain moyen terme où ils peuvent habiter. Donc, ça leur donne une chance.
Exactement. 6 ans. Alors, il y en a qui partent après 2, 3, 4.
Oui. Maximum 6 ans.
Maximum 6 ans.
Parce qu'il faut que les 21 places, c'est pas énorme. Donc, il y a des besoins.
Hein? Absolument.
Ouais. Moi, j'ai entendu parler dans l'ouest de l'île, puis peut-être à d'autres endroits, mais spécialement dans l'ouest de l'île, peut-être à cause du type de société qui est représentée, qu'il y avait des fois des réticences. T'sais. Certaines municipalités ne voulaient pas, quand on entend parler d'un centre qui reçoit des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des résidences, est-ce que vous avez eu peut affronter ces enjeux-là quand vous avez développé, en fait?
Absolument. Parce que, écoutez, un commentaire désobligeant, il y a quelqu'un qui a été dit dans le quartier, on a une maison de fous qui va s'installer chez nous.
C'est ça, exactement.
Et donc, c'est sûr que c'est difficile. Ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai commencé à être impliqué, j'étais en politique. Et donc, on a eu, et ça c'est à l'honneur des élus locaux, on a un support indéfectible de la part des élus locaux. Et donc, on a réussi à créer cet endroit sans trop de difficultés parce que la Charte de Montréal permet, dans un article particulier, de faire des constructions de ce type-là sans faire de consultation publique. C'est ce qu'on appelle l'article 89.4 qui fait partie de la Charte de Montréal. Et c'est unique à Montréal, dans tout le Canada. Donc, ça permet, il n'y a pas possibilité d'opposition, il n'y a pas possibilité de registre, etc.
C'est spécialement qu'on parle de santé mentale, c'est ça?
Pour tout ce qui est institutionnel et qui sert à la population, donc communautaire, clinique, etc.
Donc, il peut y avoir des enjeux après ou quand les gens sont au courant, comme vous disiez tantôt, c'est comme une aberration d'entendre des choses comme ça, mais ouais, c'est quand même difficile de savoir qu'encore aujourd'hui, en théorie, on est tous pour la bonne santé mentale, dans les salons, on en parle, tout ça, mais quand c'est dans notre cour, c'est le fameux « pas dans ma cour ».«
Pas dans ma cour ».
C'est ça, vous l'avez vécu un peu.
On l'a vécu, et c'est intéressant que vous parliez de l'Ouest de l'île, parce que vous savez, dans un autre registre, pour la population, peut-être uniquement pour le gouvernement du Québec, mais il n'y a pas de pauvres dans l'Ouest de l'île. Il n'y a pas d'itinérance dans l'Ouest de l'île. On a un refuge pour itinérants où il y a 70 passes.
Ça, la perception est que tout va bien, tout va bien. La vie est belle.
Tout le monde a trois autos, tout le monde a une piscine, il n'y a pas
ça.
De pauvres.
Mais...
Donc, c'est plus compliqué. Par contre, je vous dirais qu'au niveau organisme communautaire, l'Ouest est excessivement bien organisé. On a un nombre inimaginable d'organismes communautaires qui servent différents types de populations. Mais, comme je dis, la perception n'est pas évidente. D'ailleurs, on construit un édifice à côté d'une autre. Et bon, c'est un peu compliqué parce que c'est des projets gouvernementaux, ça finit jamais. Mais c'est sûr qu'il y a le quartier, comme je vous dis, on va repartir dans cette discussion-là pour dire que bon, c'est pas un endroit. Et croyez-moi, parce que ça fait 12 ans que c'est construit, ça a été ouvert en 2013, on n'a jamais eu d'incident, jamais d'incident majeur. On a des décompensements à l'occasion, mais on est bien organisé parce qu'on a une entente assez exceptionnelle avec le service de police local. Donc, on s'arrange quand on a des problèmes pour pas que ça soit trop visible au niveau de la population.
Et comment on gère justement des habitations comme ça? Chacun est comme autonome, chaque locataire, ou en tout cas chaque occupant, est autonome dans son appartement.
Oui.
Mais en gros, est-ce qu'il doit y avoir des activités de groupe? Est-ce qu'il doit y avoir un suivi, certaines supervisions? Comment ça fonctionne?
Alors, effectivement, ce sont des studios, ils sont indépendants, ils sont meublés au complet. Moi, j'appelle ça du 5 étoiles, hein, parce que c'est meublé en chaîne, air climatisé individuel, balcon à chaque endroit. Et effectivement, quand ils signent l'entente pour venir chez nous, ils doivent rencontrer un intervenant à tous les jours, à tous les deux jours. On a quelqu'un sur place de 7h le matin à 23h, 365 jours par année. Donc, ils ont accès à ces intervenants psychosociaux. Et il y a les activités quotidiennes, comme je vous dis, à tous les jours. Donc, il y en a qui font partie des classes, où on donne des cours. Et on a fait deux projets depuis qu'on a ouvert. On a demandé à un moment donné aux étudiants de cette classe-là, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et on a créé un café, dont ils ont fait le décor, ils ont dessiné les meubles, on a acheté. Et on a un studio, comme vous, on a un studio radio-vidéo où on fait des podcasts. On a un site en ligne qui s'appelle cckct.org et on met des podcasts. Et ce sont des clients du centre et des résidents qui font des entrevues et qui parlent de leur vie et de leur vécu.
C'est intéressant. C'est de la créativité, donc, ouais. Est différente un peu, ouais. Et ça permet d'explorer. Si on vient à la ressource originale, en fait, oui. C'est le centre de jour. Donc, la mission, est-ce qu'elle a évolué? Parce que vous disiez, ça fait quand même longtemps que ça existe. Est-ce que, bon, il y a le côté appartement dont on m'a parlé, mais est-ce que la ressource elle-même a évolué et dans quel sens?
La mission n'a pas changé, parce que la mission, c'est effectivement d'aider les gens avec des problématiques de santé mentale. Ça a commencé dans le sous-sol d'église.
Mm.
Avec un budget de 500 $.
Oui, c'est souvent comme ça que ça commence.
C'est comme ça, grâce à trois bénévoles. Donc,
ouais.
Et c'est remarquable parce qu'un des fondateurs est toujours au conseil d'administration, 47 ans plus tard, et avec son épouse. Et il y avait une autre, c'était deux infirmières qui ont parti cette idée-là. Donc la mission n'a pas changé. Ce qui a évolué, je vous dirais, bon, c'est d'abord l'espace physique, parce qu'on a commencé dans le sol d'église, on a fini dans un... C'était un ancien garage Texaco qu'on a acheté le terrain et maintenant on a construit cet édifice. Donc, c'est surtout la qualité des services donnés sur place qui a évolué dans toutes ces années.
OK, c'est ça. Et comment vous voyez la suite? Parce que ça fait quand même quelques années que vous y êtes et vous semblez vous y plaire. Puis ça prend des gens comme vous, ça prend des gens engagés qui le font vraiment pour les vraies raisons. Comment vous voyez un peu la suite pour Centre Bienvenue? Comment vous voyez un peu les... Est-ce que c'est une continuité ou il y a quand même des projets en vue?
Il y a des projets en vue. Comme je dis, l'idée, c'est de développer. On a eu beaucoup de difficultés à récupérer une certaine clientèle après la pandémie.
Ah ouais?
Parce qu'il y a deux phénomènes. Il faut comprendre que la santé mentale, au départ, c'est pas comme d'aller prendre un bar sur Saint-Laurent, là. Les gens ont des réticences. Et donc, la pandémie a rajouté une couche, si je peux dire, de peur par rapport à la clientèle. Donc, un des objectifs principaux, c'est d'augmenter la capacité, c'est-à-dire le quotidien de gens qui viennent nous voir. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis 47 ans qu'on existe, il y a des gens qui vont dire « Ah, vous êtes où? C'est quoi? »
Ouais.
Et comme j'ai dit, à part faire de la pub à la télé, qu'on ne fera pas, mais c'est assez compliqué parce qu'encore une fois, les gens ont ce stigma, en fait, de se ramasser avec d'autres gens et de réussir à socialiser. Donc, écoutez, on est là pour longtemps.
Oui, et pourtant, les groupes, c'est prouvé, c'est dit par plusieurs personnes, quand il y a un effet de groupe, un effet de... on se rend compte qu'on n'est pas seul, etc., ça a un bienfait énorme, puis beaucoup de gens étaient réticents, des fois, à dire, mais pourquoi je vais aller comme m'exposer puis parler de ma vie, mais c'est de moins en moins le cas, là. Mais les gens, souvent, vont aller chercher le positif chez d'autres gens. Absolument. Qui ont vécu un peu...
On a de belles histoires. Écoutez, on a une résidente qui est partie maintenant, qui habite tout seul. Et à tous les jours, elle partait de chez nous, elle allait à l'arrêt d'autobus, puis revenait à la maison. Ça a pris 2 ans pour prendre l'autobus. Et quand je la vois, elle me dit, Monsieur Dubois, je viens en autobus, je prends l'autobus. Donc, pour nous, c'est notre récompense.
Ouais.
C'est les gens qui réussissent à sortir de leur phobie, de leur maladie, et de faire un bout de chemin. Et ce qui est pour nous important, c'est que ces gens-là reviennent au centre de jour. Donc, nos ex-résidents reviennent généralement passer un jour ou une après-midi avec nous. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle nos champions. Mais on part de loin. On part de loin. On a des gens qui partent de très, très loin. Et écoutez, sur l'ensemble, on réussit bien. On manque notre coup à l'occasion parce que, bon, on a un système d'entrevue avant d'accepter les gens résidents. Mais ce n'est pas toujours évident que ça fonctionne. Mais en général, on s'en sort bien. Ça reste des cas difficiles.
Oui, ça reste que c'est des êtres humains. Puis bon, comme tout le monde, là, dans le fond, on peut des fois se tromper. Puis c'est correct, c'est normal, là, ça peut arriver. Avant de se quitter, c'est fort intéressant. Les gens, puisqu'on en parlait tantôt, des fois, ce n'est pas si connu. Ça dépend si les gens ont déjà des contacts qu'ils fréquentent ou peu importe. Mais si les gens veulent en savoir plus sur votre ressource, je pense qu'ils peuvent soit aller au site, voir le site web ou vous téléphoner, parce que vous êtes toujours ouvert aux gens du West Island ou d'ailleurs, j'imagine, les gens qui veulent se rendre dans vos activités.
De partout, absolument. Il n'y a pas de limitation de territoire.
Ouais.
Et donc, c'est centrebienvenue.org, qui est le site internet. Avec le site, on est sur Facebook, on est sur Instagram.
Ouais.
Donc, tout ça est lié au site internet.
Puis on a toutes les... C'est sûr, on a les activités en continu. Puis un peu, si on veut y aller, si on veut profiter un peu ou en tout cas s'intégrer, puis ouais, peut-être prendre confiance, c'est ça qui ressort beaucoup.
Vous savez, c'est intéressant parce qu'on participe beaucoup à des activités dans l'ouest de l'île. Donc, les festivals, on avait la fête, le pique-nique de la députée dimanche passé. Et ce qui ressort toujours dans les présentations qui sont faites, c'est tabou, la santé mentale.
Oui, celui-là encore.
Vous savez que c'est... Les statistiques varient entre 1 sur 4 ou 1 sur 5 dans toutes les familles au Québec qui vont avoir un problème de santé mentale.
C'est ça.
Mais on ne peut pas en parler.
Non, il faut...
J'ai des gens qui... on a un membre du conseil d'administration qui fait partie de l'équipe depuis quelques années, puis qui m'a dit un jour, Christian, tu sais, je suis là parce que mon frère a un problème de santé mentale. Donc, c'est un peu ça qui fait que les gens s'embarquent et s'impliquent. Mais c'est tabou d'aller dire mon frère a un problème de santé mentale.
Effectivement. Merci. C'est tout le temps qu'on a. C'était fort intéressant. Merci beaucoup, M. Christian Dubois, d'avoir été des nôtres. Et bonne continuation avec le Centre Bienvenue.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Ça nous fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Mesurer toute leur beauté. te comprendre et te retourner. Comme l'arbre qui attend les feuilles d'un printemps, mais toi tu restes redépouillé.
Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, à ton segment Espresso et le prochain plus tard dans l'émission Espresso allongé, tu nous poses une question, tu te poses une question en fait, comment être zen?
Comment être zen? Oui, zen, c'est une expression qui est vraiment rentrée dans le vocabulaire québécois depuis plusieurs années.
Ouais. Sait-on vraiment ce que ça veut dire?
Ouais,
ben, on le sait un peu, mais...
On le sait pas, on le sait, puis on le sait pas, en même ouais. temps, c'est pas clair. Mais si on regarde la définition qu'on donne sur Wikipédia, on nous dit « Le zen est une branche japonaise du bouddhisme Mahayana, héritée du Chan chinois. Elle met l'accent sur la méditation qu'on appelle le dhyana, D-H-I-A-N-A, dans la posture assise, dite de Zazen, Z-A-Z-E-N. C'est peut-être la position du lotus, peut-être, qu'on dit plus souvent chez nous.
Ça m'échappe. Pas très familier.
Oui. En fait, alors, j'ai pris un article sur l'Internet qui s'appelle ainsi « Comment être zen » sur le site WikiHow. Alors, on nous dit... Dans cet article, être zen se caractérise par une recherche d'harmonie et de sérénité en premier lieu, en soi et puis en toute chose. Il s'agit de rétablir un équilibre mental, émotionnel et physique, mais également d'obtenir l'équilibre dans toute situation et relation. Le but du zen est d'être bien dans sa tête et d'être serein. C'est un refuge de paix et de bonheur. Maintenant, en trois parties, on va examiner de plus près c'est quoi le zen. Premièrement, la première partie, c'est de trouver la paix dans sa vie, en 6 points. On nous dit...
En d'autres mots, pas se casser le bicycle, comme on dit au Québec.
On peut dire ça, oui. Alors, il y a à trouver la paix dans sa vie en 6 points. Premièrement, on nous dit, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes la seule personne que vous pourriez réussir à contrôler. Vous pouvez changer vos pensées, vos actions, réactions et émotions, mais vous ne pouvez pas changer les autres. Lâchez prise sur ce que les autres font ou pensent et restez centré sur vous-même. Si tu me demandes mon avis, je pense que ça a plein d'allure.
Oui.
Qu'on soit japonais ou chinois
ou québécois. Ça a du gros bon sens pour être plus heureux et être plus calme.
Ouais. Oui. On nous dit « Donnez aux autres le bénéfice du doute. Si vous pensez que vous n'avez pas été bien traité, ne le prenez pas personnellement. Imaginez que la personne concernée n'était pas complètement consciente. » On nous dit aussi une alternative lorsque vous êtes désappointé ou déçu est de penser à quelles étaient vos attentes. Étaient-elles réalistes? Ont-elles été exprimées clairement? Il est parfois important de comprendre avec la personne concernée comment le malentendu est arrivé pour clarifier la situation. Deuxième point selon le zen. Prenez de la distance. Prendre de la distance va vous aider à relativiser. La clé est de regarder la situation à travers les lois de cause et d'effet. Quand on ne pratique pas le détachement dans ses activités, on rencontre des obstacles. On connaît la stagnation et l'emprisonnement. La vie devient cyclique, c'est-à-dire répétitive, et reste enchaînée aux lois de cause à effet. On nous dit regarder le problème en face et trouver les causes qui ont amené le problème ici et maintenant. Tout passe. À chaque situation, demandez-vous, est-ce que tout est perdu? La confusion est-elle totale? L'angoisse est-elle parfaite? Suis-je réduit à l'impuissance?
De grandes questions existentielles, finalement.
Exactement, mais tu vois, ça vient de d'Extrême-Orient, mais
ouais.
ça se rapporte très bien à nous et je dirais à bien des pays occidentaux. Troisième point, contrôler et changer certains aspects de votre vie liés à la situation. Vous ne pouvez pas changer l'autre ni le monde, mais vous pouvez commencer à changer votre attitude ou votre réaction à la situation. Changer et reprendre la responsabilité sur votre état ou la situation peut vous redonner de la confiance. Par exemple, si vous êtes coincé tous les jours dans les embouteillages, observez puis changez ce que vous pouvez changer. L'heure du réveil, la route, vos horaires, n'entretenez pas vos frustrations, vos angoisses, ni votre colère. Au contraire, réduisez-les au maximum en prenant certaines responsabilités et commencez à véritablement changer. Quatrième point selon le Zen, focalisez toujours votre attention sur les aspects positifs. Plus vous donnerez d'attention aux aspects positifs de votre vie, plus ils se développeront. Faites la liste de ce qui va bien pour vous en ce moment. Relisez-la souvent. Mettez-la en évidence sur votre frigo ou partout ailleurs. Cinquième point, visualisez une issue positive. Même si la situation semble vous échapper, essayez d'imaginer un scénario des plus positifs. Cette méthode peut vous aider à retirer de votre esprit toute pensée nuisible. On nous dit aussi utiliser une photo pour vous aider à mieux visualiser votre rêve, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Utilisez des affirmations pour vous aider à visualiser des issues positives. Ces phrases positives vont vous aider à concrétiser vos désirs profonds. Et je m'arrête ici et je vais poursuivre un peu plus tard.
J'espère que tu vas rester zen pendant cette période-là. On poursuit à l'espresso allongé plus tard. Comment être zen?
La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
C'est avec joie que j'accueille Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, ta chronique, le titre « Parents sous pression ».
C'est tout un programme parce que de nos jours, les parents sont, paraît-il, selon des études, hein, donc plus stressés que dans le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi surtout? Pourquoi est-ce qu'ils ont plus de stress?
Et dans le temps, il faut s'entendre quand? Parce qu'il me semble que ça fait longtemps
quand?
Que les parents sont stressés. Hein?
Alors, si on remonte à 30-40 ans, je dirais que c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Et même, il y a une grosse différence avec les parents qui ont des enfants de tout juste 20 ans où les médias sociaux étaient naissants.
Oui.
Donc, c'est encore autre chose, ça. Mais il faut surtout se dire que dans le temps, quand je dis 30-40 ans quand même, pour pas trop faire de bévue, on pensait à l'enfant ou au bébé comme un être un petit peu secondaire, entre guillemets. Je mets bien des gros guillemets là. Pourquoi? Parce que on pensait que dans le fond, souvent on discutait, enfin je dis « on » exclusivement cette fois-ci, dans les familles, on discutait, on ne pensait même pas que l'enfant entendait, à la limite, hein, qu'il enregistrait, et encore moins qu'il comprenait.
Il faisait partie du décor.
Exactement, c'était comme un être secondaire.
Un peu comme un animal de compagnie, là, tu sais, je ne veux pas non plus manquer de respect.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait, mais il y avait quelque chose de ça.
Ouais.
Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il avait des besoins... cognitif et puis des besoins émotionnels, et qu'un bébé, quand on lui parle, il peut comprendre, ne fût-ce qu'à l'intonation et au débit de parole, il peut comprendre certaines choses, il peut comprendre s'il y a un environnement tendu, pas tendu, etc. Donc, on s'est aperçu que maintenant, dans le fond, on les traite comme des êtres à part entière, c'est ça la différence, dès qu'ils sont nouveau-nés. Et donc, on conseille à tous les parents de parler à leur bébé, même nouveau-né, de leur dire « oui, je t'aime » ou de dire « voilà, tu as mal, tu as soif », etc. On leur conseille de parler.
Et de leur parler normalement, pas de leur parler en bébé. Là.
Ben on peut, pour le plaisir, parler en bébé parce qu'on voit bien que le bébé a une réaction différente. C'est, c'est comme un petit langage affectif, disons. Mais l'enfant apprend le langage immédiatement, donc on va répéter des mots et à force de répéter, il va faire des associations. Mais là, on part dans une autre direction, ce n'est pas le but. Ici, on voit bien que donc, l'enfant est devenu un être à part entière et donc le parent, il se fait du stress depuis qu'il est nouveau-né, il se dit « est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que je lui ai parlé? Est-ce que j'étais attentif? » etc.
Et on en a plus conscience de la présence de l'enfant. Là.
On a totalement conscience. Je pense que maintenant, à part quelqu'un qui ne veut vraiment pas le savoir, les parents le savent en général.
Ouais.
Et vient à s'ajouter à cela une couche non négligeable qui est la couche des médias sociaux. Alors, la couche des médias sociaux, elle ajoute ce qu'on appelle la culture de la comparaison. Et on va voir que ça ajoute du stress aux parents. Il y a également la crise en santé mentale qu'on traverse aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes post-Covid, ou tout simplement parce qu'on vit à des rythmes de vie un peu fous. Et pour certains, basé beaucoup sur les médias sociaux, où il y a de l'isolement, il y a beaucoup moins de choses partagées entre les personnes. Donc, il y a une crise de santé mentale assez nette, là. Toutes les études le signalent.
Il y a comme une sorte dose d'information, en général. On est pour l'information, mais trop d'informations...
Il n'y en a plus, comme on dit, trop...
Trop, c'est comme... Oui, exactement. Puis c'est ça que, même chez les jeunes, je pense qu'ils sont bombardés de plein de choses. Ils n'ont pas le temps de digérer même un petit peu.
Digérer, assimiler et faire jouer leur esprit critique. Ouais. C'est quand même important avec l'information. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que les parents, certains, vont avoir honte de ça, d'être dépassés, d'être stressés, parce que tout le monde dit « Oh, tu dois être tellement heureux, t'as un enfant. Oui, j'ai un bébé, admettons, puis j'en ai un de 4 ans, oh, c'est merveilleux, etc. » Mais non, c'est pas toujours merveilleux, le quotidien n'est pas toujours merveilleux. Et ce qui est pire, c'est de le cacher. Donc, le mieux, c'est vraiment d'en discuter avec qui on peut, et son conjoint, et avec de la famille, des amis, etc., et d'oser dire « oui, je suis dépassée, viens m'aider pour ci ou ça, ouais. Je suis dépassée ». Parce que si on cache ça, c'est un cercle vicieux, on enfouit, et puis on fait semblant de s'en sortir. Mais en fait, ça mène à des situations vraiment difficiles.
Oui, absolument, ça s'accumule, puis à un moment donné, ça va sortir pas de la meilleure façon.
Non, ça peut sortir en crise.
Ça va mal s'exprimer. Là.
Voilà, c'est ça. Et les parents se plaignent toujours, et ici j'ai quelques témoignages. « Oh, il y a toujours quelque chose à faire pour les enfants, que ce soit pour l'école, où on doit aller à l'atelier de dessin, ou à la danse, ou au soccer, ou à l'activité musicale, il y a toujours quelque chose, on n'en sort pas, j'ai plus le temps. Pour moi-même, j'arrive même pas à prendre une douche, je dois programmer l'heure à laquelle je prends ma douche pour être sûre de pouvoir le faire et d'avoir un conjoint ou un ami ou quelqu'un de la famille qui s'occupe du bébé. » Enfin, c'est quelque chose qui, dans le temps où les gens vivaient plus en grande famille, il y avait quelqu'un toujours pour surveiller, et on surveillait moins peut-être, disons qu'on peut le dire comme ça, que les enfants se baladaient un peu tout seuls dans la maison, ou dehors.
Ou dehors, ouais.
Voilà, exactement, on a tous vécu ça, où on était avec des tout-petits dans un terrain vague près de la maison, où on laissait en charge de l'enfant de 3 ans.
Il y avait des genoux éraflés après, mais tu sais, il n'y avait pas des grandes blessures.
Entre autres,
la majorité
et d'autres petites choses.
La majorité du temps, c'était pas si grave, mais il arrivait des drames.
Il arrivait des choses, oui. Moi, j'ai eu quelques expériences, mais je veux dire, c'était dans la mentalité de l'époque, parce que je pense que, enfin, en tout cas, mes parents voulaient qu'on soit débrouillards.
Oui, c'est ça.
Donc, ils nous laissaient un petit peu faire, quitte à s'inquiéter, pas
tout,
nous le dire.
Tout en nous prévenant, mais fais attention à si, traverser la rue, tu sais,
pensant que le fait d'être en groupe aussi, ça allait nous protéger.
Ça
on fait des plus grosses bêtises.
Oui, soit des plus grosses bêtises, ou soit qu'on était, on était protégés par les autres. Mais...
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc les parents se plaignent, mère et père, donc. Et,
des suppressions, finalement, d'être souvent...
Ils sont sous pression.
Gros
on
stress.
On peut le dire comme ça, gros stress. Et ici, j'ai un tout petit peu de chiffres pour te donner quand même une idée de grandeur. Il y a presque 50%, donc presque la moitié, pardon, des parents qui se disent complètement dépassés par les événements. C'est quand même rien. La moitié des parents complètement dépassés. Et 41% de ces parents disent qu'il leur est arrivé d'être tellement stressés qu'ils n'arrivaient plus à fonctionner normalement. C'est-à-dire où ils ne savent pas travailler, ils vont au travail, mais ils ne travaillent pas. Où ils ne savent pas aller à l'activité ou être fonctionnel avec leur enfant, c'est-à-dire jouer, faire prendre le bain. Chanter des chansons, faire que la journée se déroule normalement.
Ouais.
Donc 41% n'y arrivaient pas à un moment donné.
Donc
c'est quand même énormément.
On a tellement de choses, on est tellement débordé sous pression qu'on n'y arrive plus.
On gèle à un moment donné.
Ouais.
Et ça, on peut un peu les comparer quand même par le fait que l'étude prend en considération un groupe qui n'était pas parent. Et ce groupe-là, il y avait seulement 26% des gens qui se disaient dépassés par les événements et seulement 20% qui se sont sentis totalement, donc c'est la moitié, totalement dépassés et anéantis au point de geler dans une situation et de ne pas être fonctionnel. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence et qu'être parent, ben, ça peut user. Et là, je reviens un petit peu à la culture de la comparaison qui règne. Ça règne. Qu'on le veuille ou non, qui ne voit pas passer des Instagram, des vidéos, des commentaires sur « mon enfant a déjà fait ça ». Ah, mais le mien, il dit tel mot. Oh, mais le mien, il a autant de centimètres. Et le mien, il met ses chaussettes toute seule. C'est insupportable.
Ouais.
Et je sais que dans le temps, moi, je trouvais déjà ça extrêmement difficile, je dis, il y a 30 ans environ.
Les comparaisons.
Quand les gens autour de nous disaient, oh, mais tu dois faire comme ci, pas comme ça, et le biberon, ouais, ouais. Mais t'es sûr que c'est bon. C'est déjà extrêmement pompant qu'on essaye de bien faire tout comme jeune mère.
Ouais.
Donc maintenant, à ces commentaires familiaux et d'amis, se rajoutent les commentaires en ligne. Et pour les parents qui sont victimes du syndrome, ce qu'on appelle le doom scrolling, c'est-à-dire le défilement. Donc, on va sans arrêt surfer et faire défiler les choses de manière morbide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter. On déteste ces commentaires, mais on est collé dessus quand même.
Et le temps file pendant ça. Là,
et
on
le
s'en
temps
file,
on n'a rien fait, et puis il faut aller se coucher.
Oui, on a défilé pendant des minutes, puis on ne s'en rend pas compte.
C'est ça. Donc, le stress augmente comme dans une auto-cuiseuse, n'est-ce pas?
Oui.
Et ça monte et ça monte. Et si on ne trouve pas des aléas, disons plutôt des avenues, ou pour faire sortir la vapeur et se faire aider, ça peut prendre des dimensions dramatiques. On ne veut pas ça, d'accord? Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de diminuer ce taux de cortisol, diminuer les dépressions maternelles ou paternelles. Et pour ça, on doit savoir, enfin les jeunes parents qui nous écoutent, et moins jeunes doivent savoir que par rapport à 1960, eux, ils passent deux fois plus de temps avec leurs enfants que les parents en 1960. Donc, c'est quand même extraordinaire. Donc oui, on peut passer du temps et peut-être pas super bien s'en occuper. Mais en général, si on passe du temps et deux fois plus...
Donc, en 60, les enfants étaient vraiment...
Aller dehors jouer et le père... Je ne veux pas généraliser, mais beaucoup
souvent,
des papas
ouais.
arrivaient tard. Et
ouais,
puis,
ouais.
c'était à la maman de faire de tout et de s'occuper aussi des enfants et les envoyer jouer dehors avec les autres.
Donc, il y a eu une amélioration quand même, d'une certaine façon, dans la qualité d'une relation parent-enfant, là,
je
en termes de durée.
Je crois qu'il y a énormément de progrès, en tout cas en prise de conscience du temps de qualité qu'on passe avec les enfants.
Ouais.
C'est ça qui est fondamental, en fait, c'est le temps de qualité. C'est pour ça qu'il faut soigner sa santé mentale.
Ouais.
Parce que... on peut passer peut-être moins de temps qu'on pense, parce que trop de temps, mais pas de qualité, c'est pas bon. Donc, on va essayer de se garder des moments pour soi, de prendre sa douche, d'aller faire du sport, et puis de revenir avec du temps de qualité.
Et même les enfants ont le droit d'être seuls aussi. Des fois, ils sont pas obligés d'être toujours supervisés.
Les
enfants peuvent
voilà.
avoir aussi le droit d'être un peu à l'écart.
Ils doivent errer,
et,
s'ennuyer.
Ouais, s'ennuyer, puis réfléchir. Puis, ouais, lire ou peu importe.
Oui, mon Dieu, lire.
Ouais. Pourquoi pas?
Oui. Et ici, je fais appel à la société aussi, de manière générale, parce que la société du travail n'est pas faite, elle n'est pas en lignée, les horaires, avec les horaires d'école. Donc, je trouve que ce qui serait chouette, et ça, il y a une chercheuse qui parle de cette idée-là aussi, c'est que, dans le fond, ce serait sympa quand même que les horaires d'école soient quand même un peu mieux alignés sur les horaires de bureau. Et il y a déjà des tas de pays où il y a un accueil, les enfants font du sport ou font d'autres choses. Il y a les cours, et puis en après-midi, il y a sport ou atelier, cuisine,
parascolaire,
poterie.
Multiple, ouais.
Et on sait maintenant que poterie, cuisine, ça contribue autant à l'apprentissage d'un enfant pour les liens sociaux et pour son développement personnel, les connexions qu'il va faire dans son cerveau, pourquoi pas des ateliers de langue ou d'autres
il
choses.
Il faut enlever des tâches à ses parents, tu sais, cuisine. Si l'enfant sait un peu plus cuisiner, il peut aider.
Peut-être, pourquoi pas, mais pour l'enfant aussi, pour passer du temps et que l'horaire soit un peu plus compatible avec les parents qui
ouais.
stressent à l'aller, qui stressent pour revenir à l'heure et qui payent des frais de garderie de fou.
Ouais.
Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des solutions pour... tirer la pression à laquelle sont soumises les parents, je pense qu'il faut faire appel collectivement. Donc oui, il y a des soignants, on peut aller consulter, mais au-delà des soignants, il y a la famille, les amis, des fois des collègues, on serait étonné en parlant, en partageant notre situation, quelqu'un d'autre vivra la même chose, peut-être qu'il habite dans le même coin, on va s'entraider. Tiens, on va cuisiner ensemble, on va faire X repas, ou on fait d'autres choses avec les enfants. Une fois sur deux, c'est toi qui les amènes à la danse et vice-versa, d'accord? Donc, il faut qu'on recrée des liens sociaux, une communauté un peu plus pour que la parentalité, la difficulté que vivent les parents pour le moment soient un petit peu diluées, hein, qu'ils aient leur vie, souvent des vies professionnelles riches, parce qu'ils ont choisi et qu'ils ne doivent pas faire le choix entre ça ou élever des enfants. Et voilà.
Oui, tu nous as apporté des références qu'on va mettre sur notre site web, quelques références intéressantes en rapport là, sur le site.
Les organismes de soutien à la famille.
Oui, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à l'émission. Puis ta chronique, en fait, c'est Parents sous pression. Merci beaucoup, Catherine, pour ça.
Merci, Yvon.
Puis à la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
De toute façon, même quand je dors pas, moi, je rêve de toi.
De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale.
De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as commencé plutôt la question, comment être zen?
Comment être zen,
Dans ces temps affolants, il me semble que plus ça va, plus les gens sont nerveux. Puis
c'est pas ça.
Ils sont sous pression de toutes les façons. Là.
La vie est stressante, c'est vrai.
Effectivement.
Mais je disais en ouverture, un peu plus tôt dans l'émission, zen, c'est vraiment entré dans le lexique québécois.
Et tu vois, Catherine parlait des parents sous pression, mais effectivement, il y a beaucoup de pression dans la société, alors il faut essayer de développer notre côté zen un peu. Là.
Oui. Alors, j'avais commencé un peu plus tôt, là, avec la partie 1, où on nous explique les grands principes du zen, on nous disait Par exemple, dans la première partie, ça s'appelle « Trouver la paix dans sa vie » en 6 points. Et j'étais rendu au point numéro 6. Alors, on nous dit « Profitez du chemin. » Au lieu de regarder l'avenir et de mettre toute votre attention sur le résultat tant attendu, concentrez-vous sur le chemin. Ce chemin est plein d'enseignements. Acceptez avec détachement toutes les nouvelles épreuves. Elles vous obligent à être entièrement présent. Chaque moment est un nouveau moment où tout est possible. Retrouvez le calme de votre respiration et recentrez-vous sur votre cœur. Remerciez la vie, les gens qui vous entourent, la nature, le tout, le rien. Remerciez vos ancêtres sans qui vous ne seriez pas là. Remerciez votre corps qui est un organisme complexe et fabuleux. Pas quand il est malade, par exemple.
Non. Mais c'est toute une machine.
Oui,
de
c'est
le
vrai.
Corps.
C'est vrai.
Toute une belle invention.
Là. C'est vrai, ça. Une belle invention.
Une belle invention du créateur.
Oui. On nous dit remerciez vos émotions, c'est-à-dire la joie, la peur, l'amour, la colère, qui vous permettent de ressentir la vie dans votre chair. Et remerciez les éléments fondamentaux, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Deuxième partie. Du principe zen. La deuxième partie, ça s'appelle « Reconnaître ses émotions » en 6 parties. On nous dit, premièrement, exprimer votre colère. Trouver un endroit calme et paisible, prévenez votre entourage et consacrez au moins 5 minutes par jour à exprimer votre colère. Il s'agit de décharger une énergie de votre corps dans l'action en toute conscience.
Ça ne veut pas dire tout casser, ça.
Non. Non, parce qu'en plus, ça coûte cher parce qu'il faut le remplacer.
C'est ça, ça peut faire mal, ça peut blesser.
Oui, exactement. On nous dit, vous pouvez aussi crier dans la nature ou en sautant en parachute. Quand quelqu'un est en colère, acceptez sa colère tout en créant mentalement une protection. Imaginez un paratonnerre relié à la terre et qui remonte le long de votre colonne vertébrale. Mettez-lui une couleur. Imaginez que toute l'énergie de la colère va être aspirée dans un trou noir en face de vous. Créez un rituel personnel qui permet de contenir la colère de l'autre tout en acceptant que certains mots vous sont dédiés et sont même très importants pour votre développement. Deuxième point, observez votre tension nerveuse ou votre stress. Tout changement commence par l'attention. Observez votre tension et chaque fois, recentrez-vous, respirez dans votre tension. Détachez-vous de sa source, souvent mentale. Faites un scan de votre corps, passez en revue votre corps et sentez les tensions inutiles et rééquilibrez votre posture en harmonie avec votre respiration. Il me semble que c'est un peu compliqué quand même.
Bien, c'est-à-dire qu'en théorie, c'est simple, mais c'est difficile à appliquer, mais il faut le faire si on veut être mieux dans la vie. Là. Il faut faire des efforts.
Ça prend de la pratique.
Ça prend de la pratique et en le faisant, je pense que ça va devenir plus facile, évidemment.
Oui. Troisième point, observez vos réponses lors d'une situation désagréable. Observez quelles sont les émotions qui montent. Ne jugez pas vos émotions. Laissez-les monter puis descendre. Ne vous y attachez pas. Quatrièmement, ne prenez rien personnellement. Lorsque vous commencez à ne plus rien prendre personnellement, vous commencez à être immunisé contre vos pensées nuisibles et vous gardez beaucoup plus d'énergie pour l'essentiel. Cinquièmement, souriez lorsque vous n'allez pas bien. Ça aussi, ça doit être difficile.
Ouais. Faut pas que ça paraisse qu'on va pas bien.
Oui. On nous dit une des règles d'or de l'attitude zen est le sourire. Le sourire vous permet de garder une distance nécessaire en toutes circonstances. Il vous relie aussi instantanément au cœur. Il remercie la vie. Et sixièmement, lutter contre les pensées nuisibles. À chaque pensée nuisible, demandez-vous si vous avez vraiment envie de vivre cette expérience. Sinon, détachez-vous de cette pensée avant qu'elle ne se réalise.
Et c'est quand même très prenant, toutes ces émotions-là. T'sais, on n'a pas idée des fois qu'est-ce qu'on dépense comme énergie négative.
Ouais.
C'est donc, ce que tu dis, c'est intéressant là, d'éviter ça. Là.
Oui, et on nous dit en conclusion de la deuxième partie, lorsque vous êtes envahi de pensées nuisibles, pensez mentalement à couper votre tête et visualiser qu'une nouvelle tête émerge avec seulement la pensée de votre troisième œil, votre soi supérieur, votre intuition. Restez détaché de votre mental. Alors, il y a une troisième partie dans l'énumération du zen.
Ouais.
La troisième partie s'appelle « Se donner de l'espace ». C'est en 6 points. Mais je n'aurai pas le temps de continuer, mais les gens pourront aller voir sur Internet.
Oui, oui, sur notre site antenne.qc.ca, on va mettre la référence. Donc, les gens qui veulent lire tout cet article-là complet et cette troisième partie-là. Donc, dans la section « Mentionner folie douce » sur antenne.qc.ca, sous ta chronique « Comment être zen ». Merci, Pierre.
Réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube, pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission.
Oui.
Donc, on a entendu en début « Voyage »
de Rick Pagano.
On a entendu « Tu trembleras encore »
de Maude Audet.
Dans la deuxième partie de l'émission « Minuit »
de Clémentine et Oscar Anton.
Et à l'instant, « Je veux tout savoir »
de Hélène Sillot.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci aussi pour ton sujet que tu as abordé à l'espresso allongé, « Comment être zen ». On va essayer de travailler ça. Il y a des bons trucs là-dedans. Notre invité en début d'émission, Christian Dubois, directeur exécutif du Centre Bienvenue, nous a parlé de cet organisme-là, de tous les services qu'ils font. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi avec nous. Sa chronique « Parents sous pression ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir. We'll be right back.